C'est avec grand plaisir que nous vous accueillons cet après-midi pour cette table ronde. La matinée étendue était riche en interventions qui nous ouvrent une diversité d'horizons, allant de l'englobante politique linguistique européenne et son projet ambitieux pour une éducation plurilingue et interculturelle développé par M. Coste, un aperçu plus pointu d'attitude d'enfants sur les langues en classe, en zone d'éducation prioritaire en France, proposé par Marie-Thérèse Vasseur et Véronique Bigot, et qui ouvre le champ sur les perceptions des enfants des langues et justement celle de la classe. Deux regards extérieurs par rapport à la France ont été apportés par les contributions de Lucie Nussbaum, longuement discutée, sur l'école et sa contribution à la socialisation plurilingue, je reprends cette expression, un cadre sociolinguistique particulièrement complexe, et ensuite par Jean-François de Pietro, que nous venons d'entendre, et qui pose les questions complexes relatives aux conditions nécessaires pour amener une éducation plurilingue propice à la construction de connaissances en langue de l'école. On le voit bien, les contextes très différents de ces recherches, ouvrant toutes d'ailleurs au plurilinguisme à l'école, renvoient à une très grande complexité et nous invitent aussi à décentrer par rapport à la France et son système éducatif. Il s'agit d'une série de regards eux-mêmes complexes, regard de chercheurs sensibles aux questions de politique linguistique et issus pour la plupart ce matin des sciences du langage. Alors à présent, nous avons le plaisir de vous inviter à participer activement à cette table ronde, conçue d'une part pour ouvrir un espace susceptible de faire dialoguer les chercheurs de différentes disciplines, c'est déjà ça, effectivement celle des sciences du langage, entendue ce matin, et celle aussi des sciences de l'éducation, avec la contribution cet après-midi de M. Daniel Frangy, sociologue spécialisé, il est aussi spécialiste d'une politique d'éducation prioritaire comparative, hein, présent à notre table. D'autre part, nous souhaitons faire entendre dans cet espace d'accueil différentes voix porteuses de la politique linguistique éducative, aussi bien au niveau national avec nos deux inspecteurs généraux de langue vivante de l'éducation nationale, messieurs Gaulier et Levallois, justement à ma droite,
oui.
Voilà, qu'au niveau européen, avec M. Frangy qui a réfléchi là-dessus, et aussi, bien sûr, la présence de M. Coste, expert auprès du Conseil de l'Europe, et sollicité cet après-midi comme réactant. Alors, la thématique de la table ronde, je ne vais pas développer très longuement cette thématique, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. C'est simplement pour redire que le titre de notre table ronde, « Langue dans l'éducation », Langue pour l'éducation fait écho au projet développé au sein du département de politique linguistique du Conseil de l'Europe et qui a donné lieu à la création en 2009 d'une plateforme ayant ce même intitulé. Mais Daniel Coste nous l'a évoqué ce matin. Pour la table ronde, je souhaite simplement insister sur le fait qu'il s'agit d'une perspective qui place l'apprenant au centre des langues dans toute la complexité de leur statut et relation pour lui. Hein. Comme le montre très bien le schéma de la plateforme qu'on a vu, on a pu visualiser ce schéma ce matin, et l'inscription sociale de cet apprenant. Alors, peut-être que je ne vais pas développer plus sur langue dans l'éducation, c'est-à-dire, on a déjà vu la complexité de l'ensemble des langues présentes dans l'espace scolaire. Langue pour l'éducation, tout ce qui concerne la construction des connaissances et l'accès à ces connaissances. Mais je voudrais dire simplement qu'une série de questions épineuses émergent effectivement de cette complexité, et on en a entendu l'écho ce matin de grand nombre dans les discussions. Alors, je liste quelques questions. Comment garantir l'égalité d'accès de tous au curriculum? Quel type de compétences sont nécessaires pour réussir et comment les construire? Comment faire pour que les langues de l'apprenant soient reconnues et accueillies à l'école? Comme le formule Marie-Rose Moreau, pédopsychiatre, donc dans son dernier livre, là, Nos enfants demain pour une société multiculturelle, elle dit « La présence de la langue des parents dans l'espace public et dans l'espace scolaire est un acte symbolique fort de reconnaissance pour l'enfant et d'autorisation d'être comme il est avec les différentes langues qu'il habite. » C'est à la page 113. Comment éviter le déni de langue dont souffrent grand nombre d'enfants et pour qui d'ailleurs la langue première est une langue autre que celle de scolarisation? Quelles sont les conditions nécessaires pour que chaque élève puisse développer des compétences adéquates dans la langue de scolarisation en s'appuyant, comme le dit encore une fois si joliment Marie-Rose Moreau, sur le terreau de la langue maternelle? Et pour que la langue de scolarisation devienne, alors là je trouve que ça colle bien, le seul point fixe dans une situation mouvante. Pour moi, c'est vraiment le renvoi à ce dont on a parlé beaucoup ce matin, c'est-à-dire la convergence vers la langue de scolarisation et l'expertise dans cette langue. Comment faire développer la compétence interculturelle liée aussi aux disciplines autres que les langues? Donc voilà juste une première série de questions. La table ronde tentera de dégager les enjeux, les complexités, les obstacles et les propositions pour une éducation plurilingue et interculturelle pour tous. Alors voilà le programme, messieurs. Alors, pour les règles du jeu, quelques mots sur le déroulement de la table ronde et les délais à respecter. Il y a toujours du prévu et de l'imprévu. Il y aura donc une première série de 3 interventions d'un petit quart d'heure chacune, suivie par une prise de parole à chaud de Daniel Coste qui rebondira sur les propos des 3 intervenants. Et ensuite, il y aura un temps de débat d'une demi-heure environ, où vous serez invité à prendre la parole, à donner votre point de vue, à prendre position sur les diverses questions mises en débat, dans toutes les langues, à faire part aussi de votre expérience, de vos remarques et réflexions, de vos questions aussi, même osées. Nous nous réjouissons donc de vous entendre. Et c'est avec grand plaisir que j'invite maintenant M. Francis Goulier à prendre la parole. Mais tout d'abord, un petit mot pour le présenter. Alors, M. Goulier,
c'est moi.
À ma droite, est inspecteur général de langue vivante de l'éducation nationale. Il est aussi fin connaisseur du cadre européen commun de référence pour les langues. Et il en est l'un des principaux interprètes, d'ailleurs, auprès des enseignants de langue vivante. Son intervention portera sur, et je donne le titre, l'utilisation du cadre européen commun de référence pour les langues, harmonisation des pratiques et des attentes de l'institution scolaire et ou meilleure prise en compte des besoins, aptitudes des élèves. Monsieur Goulier, la parole est à vous.
Merci beaucoup. Bonjour à tous. Effectivement, je ne suis pas sûr de répondre d'ailleurs aux questions qui ont été posées, peut-être du début à la fin de l'intervention, mais je vais dès le départ prendre une position de décentration, puisqu'on a beaucoup prononcé ce terme par rapport à la problématique sur deux points. Le colloque porte sur les zones d'éducation prioritaire et je ne parlerai pas volontairement des zones d'éducation prioritaire pour deux raisons. Tout d'abord parce que je suis très fortement convaincu dans le système éducatif français que ces zones d'éducation prioritaire, les enfants en difficulté, sont effectivement extrêmement importants à étudier car ils révèlent les problèmes de l'ensemble de nos élèves. Que tout travail qui focalise sur ces élèves a des répercussions, doit avoir des répercussions dès le départ sur l'ensemble du système éducatif, et qu'à l'inverse, et l'un ne va pas sans l'autre dans mon esprit, c'est pour ça que j'ai choisi l'autre approche, c'est qu'on n'avancera pas dans le traitement équitable des enfants en difficulté si on n'avance pas sur l'ensemble du système éducatif. Et donc mon propos portera sur l'ensemble du système et je ne rencontrerai pas directement sur le ghetto que pourraient constituer les zones d'éducation prioritaire dans cette perspective. Deuxième point de décentration par rapport à la thématique, c'est que contrairement à tous les propos qui ont été tenus depuis ce matin, je vais parler à partir d'une discipline particulière, à savoir les langues vivantes. Je suis effectivement également convaincu, d'une part, un principe de réalisme, qu'on avancera dans le projet qui nous est commun de promotion d'éducation plurilingue et interculturelle, que si on respecte l'identité professionnelle des enseignants et si on part de leur savoir-faire, de leur représentation pour les aider à avancer au bénéfice de l'ensemble de nos élèves. Donc dans la problématique langue dans l'éducation, langue pour l'éducation, moi je ne traiterai dans un point de départ que du deuxième terme, c'est-à-dire langue pour l'éducation. Les langues, à savoir les langues étrangères enseignées dans le système éducatif pour savoir un petit peu quel peut être leur rapport, leur contribution à notre projet qui est bien sûr multifacette, qui, j'ai pas du tout la prétention que mon propos englobe l'ensemble de la problématique. Et ceci pour expliquer du coup le pourquoi du titre que j'ai proposé, c'est-à-dire il n'est pas question du tout dans mon esprit de dire que le cadre européen commun de référence devrait être systématiquement interrogé dès qu'on veut réfléchir ensemble sur les langues vivantes. Il n'est pas besoin de légitimer quelque réflexion que ce soit par une contribution, une référence au cadre. C'est simplement le fait que si on parle de langue vivante, le système éducatif français, le cadre européen commun de référence occupe dans les représentations, je ne dis pas dans les pratiques, mais dans les représentations, dans les textes officiels, l'essentiel de l'espace. Et qu'il est difficile de faire abstraction du cadre. Et donc, il me semblait intéressant, dans un premier temps, de nous interroger sur les effets de l'introduction, je ne dis pas du cadre lui-même, de l'introduction en France du cadre européen commun de référence pour savoir s'il joue un rôle de frein ou au contraire, un rôle de levier potentiel par rapport à ce qui nous préoccupe ici à ce colloque. Et je pense que bon, il peut être étonnant effectivement de considérer qu'un même outil, un même document peut soit aller dans le sens d'une approche qui vise l'obtention de résultats identifiés, contrôlables, une approche normative d'harmonisation des pratiques, et en même temps de s'interroger, voir s'il ne pourrait pas, ce même outil, servir à la promotion d'une adaptation de l'approche pédagogique aux besoins et aux aptitudes personnelles et la prise en compte de l'identité linguistique et culturelle de chaque élève. Ce qui peut paraître contradictoire, en fait, vient dans mon esprit, et sous contrôle de Daniel Coste, bien sûr, à la fois du cadre lui-même et de la façon dont il était introduit en France, au système éducatif français. Dans le cadre lui-même, Daniel, d'ailleurs, nous a donné un petit peu quelques perches ce matin, on s'aperçoit que le cadre est très riche de composantes, d'éléments différents, qui peuvent être perçus, alors version optimiste, comme complémentaires, version moins optimiste, comme étant les traces de réflexion et de pratiques en Europe qui n'ont pas le même degré de maturation et d'aboutissement et qui cohabitent dans ce document sans véritablement s'harmoniser. Je voudrais juste prendre deux illustrations. Le répertoire plurilingue individuel est composé, c'était répété plusieurs fois, de compétences et de connaissances dans plusieurs langues et cultures qui ne deviennent une compétence que quand elles interagissent de façon complémentaire pour faire face à des situations de communication, quelles qu'elles soient, et qui permettent également à l'apprenant, à l'individu, d'enrichir ses connaissances et ses compétences, donc ce répertoire. Or, le cadre ne lui donne pas, par exemple, d'outils permettant de rendre compte de cette compétence. Il se limite à la mesure du niveau de compétence par activité langagière, langue par langue, qui invite implicitement à juxtaposer les niveaux de compétences, alors que l'enjeu principal de l'éducation plurilingue, c'est justement la complémentarité entre ces compétences. Il y a là, je ne dis pas une contradiction, ce serait mauvais, mais il n'y a pas de cohérence dans ce que nous propose le cadre européen commun de référence. De même, autre exemple, et puis j'arrêterai là, la médiation, qui est une activité langagière essentielle dans l'usage social de la compétence plurilingue, la médiation est appelée à jouer un rôle central, simplement le cadre en parle, mais ne développe pas. Et on ne donne pas, n'ouvre pas d'outils pour aller plus loin dans la promotion, dans l'acquisition de cette activité langagière. Je ne parle même pas de son évaluation, peut-être que l'évaluation, ce n'est pas essentiel d'ailleurs, dans cette perspective. Donc, je pense que, pour faire bref, que cette introduction du cadre en l'état, et que les échelles en particulier, de niveau de compétences qui sont, pour reprendre l'image qu'a déjà introduite Daniel Coste dans un autre forum, qui sont la voile qui fait avancer le bateau cadre européen commun de référence, que ces échelles font progresser certes des pratiques pédagogiques qui développent des compétences, qu'ils représentent ces échelles et cette adoption des échelles une avancée considérable pour construire des progressions langue par langue, qu'elles ont favorisé ces échelles les rencontres entre les enseignants des différentes langues, mais qu'elles peuvent conforter aussi les pratiques d'enseignement des langues, comme dans une attitude d'isolement et d'ignorance des autres composants du répertoire individuel. Donc je pense que, de façon évidente, la façon dont nous avons, dont le cadre est perçu, du moins en France, dans le système éducatif, peut jouer un rôle de frein important par rapport à ce qui nous a habité dans nos échanges depuis ce matin. La deuxième source de difficulté réside, à mon sens, dans la façon dont nous l'avons introduit. En France, qui est différent de d'autres pays, je crois qu'on peut, en caricaturant, identifier deux niveaux d'intervention différents qui se sont juxtaposés. Un niveau d'intervention politique qui a vu dans les échelles de niveau du cadre, évidemment, une réponse tout à fait compréhensible, une réponse à un besoin qui était diagnostiqué comme urgent en France, ça va augmenter le niveau de compétence de nos élèves. Et les échelles de cadre ont été un moyen utilisé politiquement pour donner des objectifs contrôlables, identifiables, pour permettre effectivement d'avancer par rapport à ces niveaux de compétences. Nous savons bien qu'elles sont indispensables langue par langue pour que nos élèves puissent bénéficier de l'ensemble des potentialités qu'offrent la mobilité et la globalisation au niveau économique et au niveau des études. Donc là, il y avait visiblement besoin de fixer les objectifs pour améliorer l'efficience de l'enseignement de langue vivante. Et les échelles ont été utilisées immédiatement, étant saisies par le pouvoir politique, dans cette perspective. De façon juxtaposée, voire simultanée, il y a eu un discours pédagogique, qui n'était pas le même. Discours pédagogique porté par aussi bien la DGESCO, la Direction Générale d'Enseignement Scolaire, que par les corps d'inspection au niveau national, voire au niveau académique, qui a vu dans le cadre la possibilité de répondre, là aussi, à des besoins que nous savions être les besoins de l'enseignement des langues vivantes en France. Je ne vais pas les passer tous en revue, simplement, il y a deux tares majeures de l'enseignement qui sont diagnostiquées depuis très très longtemps. Le manque de motivation de nos élèves, dont nous savons, nous sommes convaincus qu'il est dû en grande partie par l'absence de confiance des élèves dans leur capacité à apprendre des langues. Et une deuxième cause, pas la seule, c'est la vacuité apparente de l'enseignement des langues vivantes tel qu'il était proposé. C'est-à-dire, vous connaissez tous l'adage, quand vous interrogez un élève à la fin d'une année en géographie ou en histoire de ce qu'il a fait, il vous dira « j'ai vu tel ou tel pays » ou « j'ai vu telle ou telle période ». En langue vivante, il dira « j'ai fait tant de textes ». C'est quelque chose qui correspond bien, je crois, à l'état d'esprit, c'est-à-dire cette absence de prise de conscience par une partie des élèves du sens de ce qu'il faisait en cours de langue, et il nous a semblé, au niveau pédagogique, je ne développe pas, parce que vous connaissez ça au moins aussi bien que moi, qu'il nous a semblé que dans le cadre, et dans les échelles, et dans les descripteurs, il y avait un moyen à la fois de réconcilier les élèves avec leur capacité individuelle à apprendre des langues, et également, par l'approche actionnelle, à tenter de redonner du sens à ces apprentissages, à ces démarches pédagogiques, en sachant bien que ce n'est pas le cadre, ces deux approches qui vont résoudre tous les problèmes, mais c'était des éléments de réponse. C'est le point important de mon intervention à ce moment-là, c'est de dire, dans les deux cas, que ce soit l'intervention politique ou l'intervention des responsables, entre guillemets, pédagogiques, dans le système éducatif français, il y avait la conviction de trouver là des éléments, pas les réponses, mais des éléments de réponse aux problèmes qui étaient les nôtres, aux problèmes diagnostiqués depuis longtemps, qui étaient ceux de la discipline. Et donc, je pense que ça explique que ces Cette attitude de trouver ou de chercher dans ce cadre des éléments de réponse a permis, d'une part, ce discours complémentaire, qui a eu pour effet que le cadre n'est remis en cause par personne. Il était très très rapidement, sans doute trop rapidement, adopté par l'ensemble de l'enseignement des langues vivantes, sans véritablement que tous les éléments en étaient réfléchis, toutes les conséquences. Mais il y a donc une acceptation globale de par la convergence de ces deux discours, parce qu'il y avait un consensus sur ces besoins, mais que, et c'est le deuxième point de mon intervention, le point le plus important sur lequel je voudrais venir, c'est que cette convergence dans les discours a eu un effet moins positif. C'est qu'en fait, ce discours de l'institution a délimité dans les représentations l'exploitation du cadre à quelques domaines, à quelques aspects. En fait, nous avons livré aux enseignants une sorte de grille de lecture du cadre européen commun de référence par cette convergence très forte entre niveau politique et niveau pédagogique. Or, il est évident, et c'est apparu encore ce matin de façon très claire, que le cadre, ce n'est pas seulement l'approche actionnelle, ce n'est pas seulement la distinction nécessaire entre l'activité langagière, c'est pas seulement l'évaluation positive. Nous avons abandonné, en bord du chemin, des composantes essentielles du cadre européen commun de référence, essentielles parce qu'elles ont des implications très fortes sur l'enseignement, sur la conception des objectifs de l'enseignement des langues vivantes et des responsabilités de cet enseignement. Nous avons, par exemple, oublié le plurilinguisme, tout simplement. Ça peut paraître énorme, mais ce n'était pas si énorme que ça quand on a adopté le cadre européen en 2001. Nous enseignons dans le système éducatif français plusieurs langues. Plus de 90% de nos élèves apprennent au moins deux langues vivantes étrangères pendant une partie de leur scolarité. La totalité des élèves de l'enseignement général présentent des épreuves dans deux langues vivantes au baccalauréat, l'enseignement général voire technologique. Les objectifs entre les langues sont communs, sont évidents. Simplement, nous ne trouvons rien, ou presque, dans les discours pédagogiques, que ce soit les programmes ou les recommandations, sur la synergie entre les langues apprises par les mêmes élèves. Rien ou presque sur les compétences partielles. Par exemple, l'exploitation, dans le cadre d'un enseignement particulier, des passerelles vers d'autres langues de la même famille, au moins en termes d'ouverture d'éducation à cette diversité. Ça, on n'a pas pu le développer. De même qu'on n'a presque rien sur la prise en compte du répertoire des élèves dans l'approche didactique et pédagogique. Très peu de choses également, si ce n'est des résistances sur la prise en compte de la diversité des registres dans la même langue. Et là, Bruno est là, et je ne sais pas s'il aura le temps d'en parler, mais l'arabe nous a beaucoup apporté, puisque c'est grâce à l'exemple de l'arabe que nous essayons, dans d'autres langues, d'introduire cette idée de l'importance de prise en compte de la diversité des registres dans chacune des langues qui sont enseignées. Moi, je t'ai réduit, je ne suis pas encore à 10 minutes. Là. Bien entendu, je parle de l'institution, hein, il y a des discours, des pratiques pédagogiques d'enseignants qui vont bien au-delà. Mais je parle que du discours institutionnel, hein, sur le cadre. De même que nous avons oublié un autre élément important du cadre, qui est le regard que nous devons apporter sur l'apprenant, sur son apprentissage, sur le développement de son autonomie, sur sa capacité à gérer ses compétences, à développer, plutôt que de porter la priorité sur la langue enseignée elle-même. Il n'y a pas de contradiction. Simplement, ceci n'est pas véritablement problématisé dans le discours que nous avons sur le cadre. Et je crois que ces deux laissés pour compte du cadre européen commun expliquent aussi les difficultés du portfolio européen des langues vivantes en France à s'installer véritablement en dehors de quelques niches ou quelques établissements et des équipes pédagogiques. On a là, visiblement, un déséquilibre. Alors, faut-il s'en émouvoir ? Faut-il s'en inquiéter ? Ma réponse est non. Ça peut paraître étonnant, mais ma réponse est non. Il ne faut pas s'en émouvoir. Je pense que tout d'abord, le bilan est positif, globalement. Nous avons assisté à une percée très rapide, je disais sans doute trop rapide, du cadre, au moins dans les représentations. Je ne dis pas dans les pratiques, hein. On est loin du compte. Mais dans les représentations, tout simplement parce qu'on était prêt. On était prêt à le recevoir et que les éléments introduits apportaient une nouvelle cohérence à des évolutions qui étaient déjà en œuvre. Il y a des bilans très positifs en termes d'harmonisation, de travail interlangue. Le paysage n'est plus le même qu'il y a 10 ans ou 9 ans grâce à l'introduction du cadre européen commun. Simplement, il faudrait aller plus loin. Il faudrait aller plus loin vers, dans le sens de l'éducation plurilingue et la formation plurilingue. Mais je pense que pour aller plus loin, il faudrait un consensus qui, à mon sens, n'existe pas. On a pu réussir l'introduction du cadre européen commun de référence sur des aspects sur lesquels il y avait consensus, aller plus loin nécessite un processus qui n'existe pas encore dans le système éducatif. Je pense qu'il nous faut, pour avancer, naturellement, ceci ne condamne pas l'immobilisme, hein, il nous faut, pour avancer, renoncer à une approche qui serait générale, globale, mais rechercher plutôt des niches qui nous permettent de proposer des éléments qui aillent vers l'éducation plurilingue et la formation plurilingue à partir de besoins diagnostiqués qui ne seront pas généraux, mais qui peuvent être plus sectoriels ou plus précis. Je voudrais, alors je n'ai pas beaucoup de temps, mais juste, j'ai plus que 10 minutes, donc je vais très très vite. Je voudrais en citer trois. Tout d'abord, je voudrais prendre un exemple, mais qui n'est que très partiel. L'exemple d'une langue dont je m'occupe plus particulièrement, à savoir l'allemand. Vous savez que l'allemand est en grande difficulté, c'est évident, et a une particularité, c'est que 80% des élèves qui étudient l'allemand en 6e sont dans des classes bilingues, qui n'est pas bilingue, hein, bilingue. 80% des élèves qui apprennent l'allemand en 6e apprennent en même temps l'anglais, de façon simultanée, ce qui a pour conséquence que l'allemand ne peut survivre à terme, c'est notre conviction, que si nous exploitons de façon systématique, visible et responsable, la proximité linguistique et méthodologique avec l'anglais. Ce qui fait que nous avons pu obtenir dans l'ensemble de la communauté des professeurs d'allemand, des acteurs, cet accord pour modifier profondément la pédagogie de l'allemand vers le sens de passerelle entre les deux langues, d'exploitation systématique de ces passerelles, de cette proximité, et en fait ce qui nous amène à mettre l'accent non plus sur des compétences singulières, pour reprendre les termes de Jean-François, mais plutôt sur les compétences transversales. Naturellement, c'est pas, on est loin encore d'éducation plurilingue, mais c'est une avancée extrêmement forte pour aller vers cette prise en compte de cette proximité, de ce répertoire des élèves que nous avons à la charge, parce que ceci correspond à un besoin de la discipline. Il n'y a pas eu de résistance, des inquiétudes parce qu'on manque d'outils, mais il n'y a pas de résistance, il y a une acceptation. Je pense qu'on peut parler de approche globale pour toutes les langues, mais que chaque langue aurait intérêt à rechercher s'il n'y a pas des possibilités, que ce soit avec l'anglais, puisque tout le monde apprend l'anglais. Donc là, l'anglais joue un rôle de pivot important, mais peut-être aussi par rapport à des situations particulières. On pourrait, par exemple, penser à la relation entre l'arabe et l'espagnol, ou d'autres proximités. La deuxième piste, mais je vais très très vite, hein. La diversité sociolinguistique de nombreuses classes pose également des problèmes, hein, des problèmes de pédagogiques, mais également peut-être une remise en cause de la cohésion sociale dans certains établissements. Et je pense, et là c'est une conviction très forte, que sans remettre en cause la responsabilité des enseignants à enseigner une langue, une culture particulière, nous ne pouvons pas continuer à ignorer les langues qui sont présentes dans la classe. Je pense qu'il nous faut nécessairement valoriser, reconnaître cette diversité des langues à travers cette pratique d'enseignement de telle ou telle langue. Comment éduquer les élèves au respect de la critique de l'université si l'enseignant de langue et de culture dans son action quotidienne feint d'ignorer la diversité présente dans ses classes? Je ne peux pas m'étendre parce que le temps me manque, mais là je crois qu'il y a quelque chose d'important. Je résume souvent ceci auprès des enseignants que je rencontre dans les formations en disant il faudrait maintenant que chaque professeur d'une langue, que ce soit chaque professeur d'allemand, d'italien, d'anglais, d'espagnol, d'arabe, deviennent aussi professeurs de langue. Et que ce n'est pas la même chose. C'est sans renoncer, bien sûr, à la responsabilité qui est la sienne par rapport à la langue et à la culture dont il a la charge, mais véritablement de prendre en compte ce besoin de permettre aux élèves de développer leur autonomie et de comprendre ce que sont les langues et de comprendre, de le doter d'outils cognitifs, affectifs, méthodologiques qui lui permettent d'aller plus loin. Je ne vais pas plaider directement pour le portfolio, mais je pense que les approches type portfolio sont de nature à permettre cette valorisation en reconnaissant ce qui appartient à quoi. Il ne s'agit pas de confondre tout, mais valoriser les compétences des élèves dans le regard de l'enseignant de quelque langue que ce soit a une fonction éducative, me semble-t-il, extrêmement importante. Le troisième point, la troisième niche qui correspond à des besoins qui me semblent possibles, c'est CLIL et MIL. Nous avons de plus en plus de situations où nos élèves utilisent des langues étrangères pour apprendre d'autres disciplines. Ils sont confrontés à des expériences d'utilisation de la langue différentes. Nous avons besoin de descripteurs qui soient spécifiques, qui ne sont pas les mêmes que les descripteurs sur le geste social de la langue en dehors en dehors du cours de langue, ou encore en dehors du cours de DNL ou d'EMIL. Il nous faut absolument des descripteurs. Je pense que là, ceci nous permettrait d'identifier des opérations cognitives qui sont liées aux différentes disciplines, de prendre conscience qu'il y a des réalisations linguistiques différentes de ces opérations cognitives dans les différentes langues, dans les différentes situations, et ça permettrait sans doute de contribuer à une prise en compte de ces éducatifs français que toute discipline est une discipline linguistique et que toute discipline a une dimension langagière fondamentale. Bon, ces trois pistes sont loin d'être partagées. Hein. Nous avançons. Je pense qu'il y a là des points possibles d'avancer. Mon propos, c'était, je ne pourrais pas aller plus loin, mon propos, c'est de dire que je ne pense pas, j'ai peut-être tort, hein, que nous puissions, pour aller plus loin dans l'éducation plurilingue et interculturelle, décréter, comme on fait pour le cadre, que on y va, tout le monde y va. Je pense que ça n'a aucune raison, aucune chance de succès, parce que les esprits ne sont pas prêts, les représentants ne sont pas là. Il nous faut identifier et accompagner de façon volontariste chaque niche qui se propose, qui s'ouvre plutôt, ou qui se découvre, chaque besoin, même partiel, qui nous permet d'aller plus loin par des outils. Et ceci en particulier, je finirai par ça, si vous permettez. Je finirai, tant pis pour le reste. Je vous le donnerai si vous voulez. Vous loupez beaucoup à la fin, parce que le plus intéressant, c'était la dernière page que je ne lirai pas. Pour dire, dans cette perspective, que ce soit les trois exemples que je donnais, que ce soit, par exemple, pour les passerelles entre langues, les synergies entre langues, que ce soit pour la prise en compte des répertoires langagiers des élèves, quand on travaille sur l'évaluation, sur la réflexion avec les élèves sur leurs compétences en langue, sur les compétences culturelles, que ce soit sur les situations CLIL, EMIL ou autres, je pense que nous avons... Il y a un effet qui me tient énormément à cœur, je pense que Bruno aussi, c'est le rôle des langues vivantes dans le fameux socle de connaissances et de compétences. Idée fondamentale, idée qui a du mal à s'implanter pour des tas de raisons. Mais je pense qu'un des pièges pour les langues vivantes dans le socle, c'est qu'elles ont un pilier à part entière. Le fameux A2 dans une langue vivante étrangère à valider. Je pense que ça, c'est le piège. Car nous oublions par là même que le rôle peut être encore principal des langues vivantes par rapport au socle des connaissances et compétences sur d'autres piliers. Par exemple, sur les piliers 6 et 7, compétences sociales et civiques, autonomie, aptitude à l'auto-évaluation. Là, les langues ont un rôle fondamental à jouer. Il y a aussi le pilier 4, maîtrise des techniques d'information et de communication, bon, c'est évident. Et puis la culture humaniste, le pilier 5. Ne pas comprendre que les langues prennent conscience du rôle qu'ils ont à jouer par rapport à ça, je pense que c'est important. Donc il nous faut absolument sortir de la focalisation sur les niveaux de compétences à atteindre, même si c'est quelque chose d'important, pour véritablement faire prendre conscience à la communauté des linguistes qu'ils ont une contribution extrêmement forte à la formation générale des élèves, dans le sens de l'éducation plurilingue interculturelle, j'en suis fortement convaincu, mais que le mode d'avancer dans cette direction, c'est sans doute de rechercher partout où c'est possible des possibilités, des besoins qui se font jour, et d'être à l'affût pour accompagner de façon volontariste ces différents besoins, pour donner aux enseignants des outils qui soient efficaces et qui leur permettent véritablement de prendre conscience que ce n'est pas surréaliste, que ce ne sont pas des fantasmes, mais que ça leur permet concrètement d'avancer dans leurs tâches pédagogiques quotidiennes.
Merci beaucoup. Merci beaucoup donc pour toutes ces nuances apportées à notre compréhension de la complexité et des difficultés de mise en œuvre de ce cadre, et aussi pour les niches qui s'ouvrent et qui seront ces pistes qui s'ouvrent et qui seront sûrement reprises dans la discussion tout à l'heure. Alors, je présente maintenant M. Bruno Levallois, qui est inspecteur général de langue vivante de l'éducation nationale. Il a récemment participé dans ce cadre à la réalisation d'un rapport de l'inspection générale sur l'accueil et la scolarisation des enfants nouvellement arrivés en France. Et voilà le rapport. Bruno Levallois est également président du conseil d'administration de l'Institut du monde arabe. Il est par ailleurs inspecteur d'arabe et son intervention s'intitule « Le plurilinguisme, un atout ignoré dans l'éducation prioritaire. L'arabe en question, au pluriel. Voilà.
Oui, et en même temps, je ne suis pas certain que mon propos va exactement calquer avec l'intitulé que j'avais moi-même proposé, donc je suis tout à fait désolé. Voilà, c'est comme ça. Mais comme je vais peut-être peu parler de l'arabe, j'en profite quand même pour relever ce que vient de dire Francis Goulier à propos de la variation linguistique. Je ne résiste pas au plaisir de rappeler quelque chose auquel il sera sensible d'ailleurs, c'est que lorsque nous avons fait les programmes de collège, pas les actuels ni les précédents, mais ceux d'avant, ça remonte à une époque où c'était à l'époque Jadid Sa qui était président du groupe d'experts pour l'ensemble des programmes des collèges. Et je me souviens que lorsque nous essayons dans ce groupe, où toutes les langues étaient représentées, de faire comprendre pourquoi nous tenions absolument en arabe à faire des développements dans nos programmes sur la définition de la langue enseignée et des développements sur la variation linguistique et le fait de prendre en compte cette réalité qui nous semble être une réalité assez universelle à l'ensemble des langues du monde, finalement, en tout cas des grandes langues. Et lorsque nous essayons de faire comprendre ça à nos collègues anglicistes, italianistes, hispanistes, etc., nous nous sommes heurtés à une incompréhension si virulente que la tension étant palpable, Jadid Sa, à un moment donné, nous a dit « Vous êtes 10 ans en avance, rendez-vous dans 10 ans parce que c'est vous qui avez raison ». Et je tiens à rendre cet hommage à Jadid Sa. Effectivement, les germanistes, eux, étaient extrêmement sensibles à ce que nous présentions à cette époque-là. Et ce n'est pas un hasard que ce soit Jadid Sa, qui est, lui-même étant universitaire germaniste, qui ait saisi la signification de ce que nous essayons de présenter. Donc, c'est pas du tout de ça que je veux vous parler, à vrai dire, mais je vais m'appuyer essentiellement sur le rapport dont il vient d'être question, qui a été rendu par l'inspection générale en septembre dernier, et qui s'intitule « La scolarisation des élèves nouvellement arrivés en France », et rapport des deux inspections générales, et qui a été conduit par Catherine Klein et Joël Salé, et groupe auquel j'ai eu le plaisir et l'honneur de participer. Malheureusement, ce rapport, comme quelques rapports, n'a pas été mis en ligne sur le site de l'inspection générale, donc il n'est pas facilement consultable. Il n'empêche qu'il a été distribué à l'ensemble des recteurs d'académie, donc il n'est pas sous embargo. Ça veut dire que, en principe, vous devez pouvoir vous le procurer en vous adressant à votre recteur, et puis à partir de là, je dirais, le reproduire par vos propres moyens. Enfin bref, c'est un rapport qui mérite d'être lu et d'être travaillé, parce que c'est dans cet esprit qu'il a été fait pour être un instrument de travail à l'intention de l'ensemble des enseignants concernés par l'accueil des enfants nouvellement arrivés en France, mais problématique qui dépasse très largement cette stricte définition. Quelques réflexions, si vous voulez, mon propos n'est pas un propos de chercheur, pas plus d'ailleurs que celui de Francis Goulier, c'est un propos de praticien. Donc, quelques réflexions, si vous voulez, qui viennent en contrepoint d'abord de ce que vient de dire Francis Goulier lui-même, et puis également donc de ce rapport sur lequel je souhaite m'appuyer. Je voudrais parler du rapport entre langue première et langue seconde, c'est-à-dire ce qui nous occupe aujourd'hui tout particulièrement, l'articulation. Il en était question tout à l'heure, et ce matin sans doute, mais tout à l'heure très nettement dans l'intervention de M. De Pietro, l'articulation pour les élèves qui sont allophones avec cette langue première et la langue seconde qui est le français, qui est la langue de scolarisation et la langue de la communauté nationale à laquelle ils sont appelés à s'intégrer. Il y a de longs développements dans notre rapport sur cette question, mais je voudrais vous livrer quelques réflexions à ce propos. Dire que la question mérite à chaque fois d'être complexifiée, c'est-à-dire il faut vraiment penser, quand on parle de ça, à introduire constamment des distinguos, c'est-à-dire quel est le degré de proximité ou d'écart entre la langue seconde, le français en l'occurrence, et la langue première. Les données sont très différentes selon qu'il s'agit d'une langue qui est apparentée de près ou de loin au système linguistique du français, ou au contraire, quelque chose qui est extrêmement étranger. les données sont très différentes. Mais il faut aussi distinguer, c'est rarement fait. C'est rarement fait, ça a été un peu suggéré tout à l'heure, rapidement, parce que le temps presse, mais le distinguer selon le statut des langues. Calvet nous invite très vigoureusement à penser également le statut différent des langues. Il faut avoir constamment ça présent à l'esprit, parce que c'est une question qui est souvent tue par pudeur. On n'ose pas vraiment tirer toutes les conséquences de cette réflexion. Les langues n'ont pas toutes le même statut, et de loin. Selon différents critères, d'abord langues orales, langues écrites, il y a des langues qui ne disposent pas de corpus écrit, qui sont des langues uniquement de transmission orale. Leur statut est tout à fait différent, évidemment, par rapport à une langue qui dispose d'un système écrit et de corpus écrit. Les fonctions sociales des langues également est absolument différente selon les différentes langues. C'est bon de le rappeler, parce qu'encore une fois, ce sont des questions qui sont par pudeur ou par, je ne sais, ou par politiquement correct, je ne sais, sont souvent mises sous le tapis. Or, elles sont essentielles. Les fonctions sociales, les langues ne remplissent pas les mêmes fonctions sociales. Il y a des langues qui se restreignent à un usage familial ou de communauté, plus ou moins restreinte ou élargie. Et il y a des langues qui assurent des fonctions étatiques, c'est-à-dire qui assurent l'ensemble des fonctions sociales d'une langue, aussi bien les fonctions administratives que les fonctions scientifiques, philosophiques, littéraires, etc. D'autres qui n'assurent aucune de ces fonctions, parce qu'elles n'ont pas le statut de langue d'État. Elles n'ont pas développé toutes ces potentialités et toutes ces fonctions. Il y a également le fait de du degré de diffusion également des langues, et ça aussi Calvet nous dit les choses très crûment. Les langues sont appelées à être soit nationales, soit internationales, et selon des cercles plus ou moins larges de diffusion. La situation de l'anglais est absolument unique. Il n'y a pas d'autre langue aujourd'hui qui ait ce statut au monde. C'est un statut absolument unique. Mais nous avons d'autres grandes langues qui ont des statuts internationaux, tels que le russe, le chinois, l'espagnol, l'arabe, le portugais, qui sont des langues à grande diffusion internationale. Différentes d'ailleurs, elles ne sont pas toutes les mêmes, cette diffusion n'est pas de même importance. Nous avons également des statuts très différents selon qu'il s'agit de langues de scolarisation ou non dans les pays où elles sont parlées et d'où viennent les élèves que nous intégrons. Lorsque ces langues sont langues de scolarisation, Le degré de maîtrise de ces langues de la part des élèves que nous intégrons est tout à fait différent de langues qui ne seraient pas de scolarisation. Et ceci suppose un traitement aussi différent. Et donc aussi le degré de conscience du système linguistique par les élèves en question, lorsque nous accueillons des ENAF, comme on dit, élèves de langue, les ENAF, nous accueillons des élèves qui n'ont pas été scolarisés ou dont la langue qu'ils portent est une langue familiale et non pas de scolarisation, le traitement est tout à fait différent. Le degré de conscience linguistique est très différent et on peut s'appuyer de manière très différente selon l'un ou l'autre cas. Il faut aussi penser que selon le statut de ces langues, la culture associée aussi a un statut très différent. Et du coup, ces langues peuvent représenter des marqueurs d'identité très différents. Lorsqu'il s'agit d'une langue qui est d'usage familial et communautaire, elle représente un marqueur d'identité qui est lié à cette communauté uniquement. Lorsque c'est une langue qui est nationale ou transnationale, son marqueur identitaire est de nature très différente aussi. Il faut intégrer ces données-là dans la réflexion. Il faut savoir aussi, et mais j'y reviendrai tout à l'heure, sur le fait que, dans notre système scolaire, cette langue est-elle enseignée ou non ? Nous enseignons grosso modo, si vous voulez, 15 langues. Hein, je crois qu'on en est à, 15 langues enseignées officiellement, je parle dans le système scolaire français, à un degré ou à un autre, c'est-à-dire des langues qui disposent de programmes, d'un corps de professeurs titulaires et d'inspection ou de chargé de mission d'inspection, ce qui revient au même, c'est-à-dire donc d'un système d'arrimage de l'institution qui est très fort. Il y a 15 langues. Donc, là aussi, le traitement va être très différent selon qu'il s'agit d'une de ces langues ou d'une langue non enseignée, évidemment. Le turc est une langue enseignée en France. Son traitement va être très différent, par exemple, d'un élève berbérophone. D'une part, parce que le berbère n'est pas une langue nationale, n'est pas une langue de tradition écrite, ne dispose pas de corpus écrit, sauf quelques corpus ethnographiques tout à fait récents, enfin, qui remontent au XIXe siècle. Que le berbère n'a assuré aucune fonction étatique et fonction scientifique, etc. Et enfin, parce que le berbère n'est pas enseigné. Voilà donc, si vous voulez, je prends deux exemples immédiats, si vous voulez, deux langues qui concernent un nombre important d'élèves qui sont nouvellement arrivés en France et que nous avons à intégrer, et intégrer aussi d'abord par l'apprentissage du français, mais dont la langue de référence est évidemment de nature très différente. Alors, je parlais à l'instant d'identité, de marqueur d'identité. Il y en était question tout à l'heure, ce matin sans doute aussi. L'enjeu est sérieux. L'enjeu est sérieux. Il y en est question également dans le rapport d'inspection générale. L'enjeu, c'est de savoir ce que l'on fait des identités. Ou bien collectivement, et je dis même nous en tant qu'Europe, nous avons une attitude qui consisterait finalement à assigner à identité et donc à communauté distincte les élèves dont nous avons la charge, en considérant qu'ils appartiennent à une communauté et que le traitement de cette identité et donc de la langue est du ressort de cette communauté particulière, ou bien au contraire, les identités ont vocation à être mises à distance, questionnées, interrogées et mises en place, à la juste place, c'est-à-dire place dans une communauté nationale d'un destin commun. Toute la question aussi est du rôle que l'on veut faire jouer à la culture. On parle de interculturel, etc. Qu'est-ce qu'une culture ? Est-ce que la culture est un marqueur identitaire qui enferme, ou est-ce qu'une culture est contre une réalité ouverte, complexe, problématique, conflictuelle, évolutive ? Ce sont des questions tout à fait essentielles, parce que, ou bien on assigne, encore une fois, à enfermement communautaire tel ou tel élève, ou au contraire, on met en commun la culture dont il est porteur et on la met en commun avec toute autre culture. Et ça a été très nettement esquissé tout à l'heure dans l'intervention de M. Di Pietro. Très nettement, ces enjeux-là ont été esquissés. Et je crois qu'il faut absolument y revenir et avoir vraiment présent à l'esprit les enjeux. Nous sommes, nous, dans un système scolaire français, mais je pense que l'ensemble des systèmes scolaires européens, mais français de manière plus évidente, c'est l'histoire même de notre pays et de son système scolaire, nous sommes dans une perspective universaliste, humaniste. Et dans ces conditions, que peut faire de ces langues et de ces cultures l'école, et que peut-elle en dire ? Et toute la question est là. Toute la question est là. Encore une fois, c'était suggéré tout à l'heure très, très finement. Rappelons que nous sommes devant deux alternatives, deux solutions extrêmes. D'un côté, c'est le déni de culture, le déni de langue et de culture, qui est ravageur. Et d'autre part, l'assignation identité. Ce sont les deux, situations qui sont aussi ravageuses l'une que l'autre. Et au milieu de cela, au fond, quel est l'espace libre laissé par notre institution scolaire? Le pilier 5 du socle commun, excusez-moi de voilà, mais ce, qui parlait en effet de culture humaniste, nous rappelle ce dont il s'agit. Mais tout notre système d'enseignement, profondément, a une visée universaliste. C'est-à-dire que de toutes les disciplines, certaines plus particulièrement, les disciplines qui participent à la construction des humanités, la littérature, bien évidemment, la littérature française et toutes les littératures, l'histoire, la géographie, l'histoire et la géographie qui sont des clés pour comprendre le monde aujourd'hui, et toutes disciplines, les sciences économiques et sociales, etc., etc., ont pour vocation première d'aider à comprendre le monde dans sa globalité, dans sa totalité, et non pas comprendre la France dans sa singularité. La culture française se singularise par cette vision universaliste. Ça veut dire des choses très, très essentielles. Très essentielles, ça veut dire qu'en effet, ce que nous pouvons faire, et là, M. Di Pietro nous a donné des exemples extrêmement intéressants tout à l'heure de type de pratique interculturelle qu'on peut avoir en classe, elles n'ont de sens que si elles participent à un discours commun, à une visée commune. Tout ce qui concerne les langues de tel ou tel élève concerne l'école globalement parce que ça concerne, parce qu'il peut y avoir un discours commun sur telle ou telle chose. Il est dit à un moment donné dans le rapport que, certains retrouveront, qu'il n'est pas tant question de parler les langues, mais de parler des langues. Pour ces élèves. Il n'est pas question que, et donc, d'une certaine manière, nous renvoyons au débat de tout à l'heure, il n'est pas question que les professeurs ou le maître dans sa classe connaissent les langues du monde. Pas du tout. S'il en connaît quelques-unes, à la bonne heure, c'est très bien, parce qu'il aura une meilleure réflexion sur le système linguistique et sur les grands enjeux linguistiques. Mais il est important de pouvoir parler des langues de nos élèves et de les resituer dans un ensemble cohérent et complet. Et j'ai beaucoup apprécié les exemples qui sont donnés tout à l'heure et qui sont tout à fait dans la logique des travaux de Nathalie Auger, évidemment, c'est-à-dire qu'on parle en langue, c'est-à-dire de trouver des grandes questions linguistiques communes. Tout à l'heure, il y a des questions de quelques d'entre elles. Je pensais, vous avez parlé de la conjugaison. Je pense que la conjugaison, c'est pas tout à fait mille fois raison. C'est pas tout à fait. C'est peut-être une impasse certainement. Mais l'expression du temps, par exemple, l'expression du temps, question horriblement complexe parce que le français de cette singularité, vous le savez, d'être sans doute la langue dans laquelle l'expression du temps est la plus compliquée qu'il soit. C'est épouvantable. On le voit bien pour les élèves, pour les étrangers et nos élèves étrangers. C'est ce qu'ils ont le plus de difficultés à maîtriser et que, souvent même, à l'écrit, ils n'arrivent jamais à maîtriser. À l'écrit, j'entends. Parce que c'est là que se fait la plus grande complexité de l'expression du temps. Or, ça, c'est intéressant, en effet, de travailler sur des questions linguistiques d'ordre tout à fait général. Par exemple, l'expression du temps et de savoir comment ça peut se faire dans tel ou tel système de langue. Et là, en effet, il n'est pas question que le professeur connaisse les langues, mais que l'élève puisse, lorsqu'il est locuteur de telle ou telle langue, le turc par exemple, être amené à penser et à dire et à formuler comment le temps s'exprime. Il le dira d'une manière qui ne sera pas linguistiquement correcte. Mais probablement, comme il a l'intuition de sa langue, et que nous avons tous l'intuition de notre langue naturelle, il dira des choses intéressantes et des choses qui, probablement, si le professeur ou le maître a une formation linguistique essentielle, c'est-à-dire de base, pourra être interprétée et pourra faire du sens. Et en ce sens, nous plaidons, et nous plaidons dans le rapport, et je plaide tout particulièrement, pour une formation, en particulier des maîtres, une formation à la linguistique qui soit beaucoup plus solide qu'elle n'est aujourd'hui. Les maîtres sont très démunis de ce point de vue-là. Très démunis. Or, la question de la langue est centrale pour le sujet qui nous occupe. Est centrale. Et il n'est pas tant important que nos maîtres connaissent plusieurs langues qu'ils aient une bonne formation à l'analytique générale, de manière à pouvoir mettre en perspective et comprendre et interpréter ce que tel ou tel élève qui parle swahili ou le mandingue et autres pourra dire de sa langue, que lui, le maître, puisse l'interpréter sans faire de graves contresens et puisse donner du sens et permettre à ses élèves, en effet, d'introduire leur langue dans notre système, dans notre classe, finalement. Voilà, je crois que j'ai largement dépassé le temps qui m'était imparti. Désolé.
Ben, merci beaucoup pour votre apport qui nous amène encore d'autres dimensions de complexité, qui focalise aussi sur des questions épineuses de formation des enseignants. Et voilà. J'ai le plaisir maintenant de présenter Daniel Frangy, qui est sociologue de l'éducation au Centre Alain Savary INRP. Il a piloté EuroPEP, un projet européen de grande envergure visant à effectuer une comparaison des politiques d'éducation prioritaire dont il présentera les résultats à ses tables rondes. Cette étude a donné lieu à une publication, c'est-à-dire qu'il y a déjà un premier ouvrage. D'ailleurs, je l'ai aperçu sur la table dehors. Les auteurs sont Demeuse, Frangy, Grégère, Rochex. Et le titre, « Les politiques d'éducation prioritaire en Europe, conception, mise en œuvre, débat hein, ». C'est de 2008. Et M. Frangy m'a dit tout à l'heure qu'il y a un second ouvrage qui sera publié cette année.
Merci. Donc, du coup, effectivement, mon propos sera moins, cernera moins la question de la pluralité linguistique en tant que telle, mais essayer plutôt de la resituer dans un cadre global de la réflexion sur l'éducation prioritaire, là, pour le coup. Et j'entendais bien ce que disait Monsieur Goulier tout à l'heure. Mais pour moi, l'idée, ce serait plutôt de dire oui, il y a intérêt à réfléchir sur l'éducation prioritaire, mais pour y poser des questions sur l'ensemble du système éducatif. Donc, ce serait pas de refuser de réfléchir à l'éducation prioritaire pour éviter la ghettoisation, qui est un vrai problème, mais ce serait plutôt, au contraire, à partir d'une réflexion sur l'éducation prioritaire, questionner le système éducatif dans son ensemble. Donc, l'enjeu, mon propos, ce serait plutôt, du coup, de resituer les questions qui nous animent ici, dans ce contexte. Et en plus dans le contexte non simplement français, mais bien européen, puisque l'étude que nous avons faite portait sur différents pays en Europe. Alors simplement, l'un des résultats de l'étude, le résultat le plus global, je peux pas rentrer dans les détails des résultats, c'est de dire, notamment, on voit une évolution historique de ces politiques. Hein. Donc en France, on les connaît bien, puisqu'il y a eu des ZEP dès les années 81. Mais dans d'autres pays, il y a une diversité de politiques qui ne correspondent pas exactement à ce que l'on a en tête quand on pense à l'éducation prioritaire en France. Et notamment, ce que l'on observe, c'est qu'il y a une évolution historique quand même assez forte. Ce n'est pas une évolution linéaire. Et aujourd'hui, il y a une complexité dans tous les pays, comme on le voit en France. Il y a une complexité de la politique d'éducation prioritaire qui mêle peut-être des références à différents modèles. Alors, pour le dire très très vite, cette évolution, on est passé de politiques dites de compensation, hein, dès les années 60, où l'enjeu est de lutter contre les inégalités scolaires en lien aux inégalités sociales, économiques et économiques. Au moment où, on a créé des comprehensive schools, et en France, le collège unique notamment, on a unifié le système d'enseignement, et on s'est aperçu qu'il y avait des taux d'échec scolaire assez forts, et que pour réaliser la démocratisation, il ne suffisait pas de mettre tous les enfants ensemble, qu'il fallait visiblement faire autre chose. Donc les premières politiques, c'est ça, c'est la lutte contre les inégalités au nom d'une démocratisation de l'ensemble du système d'enseignement, justement, qui est en jeu. Et si vous en souvenez, en France, on a parlé, par exemple, à un moment donné, certains parlaient à propos des ZEP, d'un laboratoire du changement social en éducation, c'est-à-dire des ZEP partaient une dynamique qui aurait pu permettre, en tout cas ça c'était l'hypothèse et c'était le projet, d'aider à démocratiser l'ensemble du système d'enseignement. Alors bien sûr, il y a eu aussi des critiques de ces politiques, je vais passer vite, notamment des débats, notamment avec les sociologues très présents dans ces débats à cette époque-là, et notamment un peu la sociolinguistique aussi d'ailleurs, qui insistait sur le rapport entre les savoirs et leur ancrage dans les rapports sociaux, sur la question de la langue, très présent, les débats sur la langue, des choses comme ça. Dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'on observe? Alors, un peu partout en Europe, hein, et pas spécialement, ou pas uniquement en France, c'est qu'il y a eu un peu un glissement, une transformation de l'enjeu même de ces politiques. ou dans les années 80-90, on a l'impression que l'objectif, ça devient un peu plus celui de la lutte contre l'exclusion. Alors, c'est plus exactement la même chose. Lutte contre l'exclusion scolaire et sociale, où il y a une mise en avant aussi de certains problèmes qui sont très importants et qui ont été très médiatisés, mais parce que ce sont aussi des vrais problèmes, de violence à l'école, de déscolarisation, de décrochage. On s'intéresse aux enfants qui sortent de l'école sans diplôme ou sans qualification, etc. On le voit très clairement en Angleterre, sous les politiques de Tony Blair et du New Labour, où on thématise une société qui vise peut-être un peu moins à égaliser, à construire des rapports sociaux égalitaires, mais à lutter contre l'exclusion, c'est-à-dire à éviter que ceux qui sont en bas, si on peut dire, sortent, n'aient pas accès à des biens sociaux minimums, santé, éducation, logement, des choses comme ça. Donc c'est une autre pensée politique qui se greffe sur l'école et qui entre autres sur l'école, pas uniquement sur l'école, et qui se met en avant. On a fait un peu le même constat aussi pour la France, puisque il y a eu des travaux qui ont questionné la seconde relance des ZEP dans les années 90, ou notamment première et seconde relance, où on disait bon, il y a eu une extension des ZEP et notamment la mise en place des REP, à l'époque des réseaux d'éducation prioritaire, et donc une grande extension, d'où du coup aussi, vous savez, les débats pour la dernière réforme de 2006, où on a dit on a trop saupoudré les moyens, donc il faudrait peut-être concentrer les moyens sur quelques zones en particulier, mais il y a eu aussi des débats qui portaient sur le fait que la politique ZEP a été très attachée ou couplée à la politique de la ville en France. Hein. Justement, le débat, vous voyez, c'est un petit peu... Il est peut-être moins explicite qu'en Angleterre, mais le rapport entre inégalité et lutte contre l'exclusion, c'est pas exactement la même chose. C'est donc ce contexte aussi, dans ce deuxième âge des politiques, donc, où l'enjeu est celui des socles communs de compétences et de savoirs, dont on peut-être en rediscutera. Je parle pas spécialement de la politique française, mais au niveau européen, où justement il s'agit, pour reprendre une expression de François Dubé, de se préoccuper du sort des vaincus de la compétition scolaire. C'est-à-dire, c'est pas normal qu'aujourd'hui des enfants soient vaincus par la compétition scolaire et qu'ils sortent, on ne sait même pas ce qu'ils maîtrisent ou pas quand ils arrêtent leur scolarité. Alors bien sûr, ça c'est très important, c'est un débat très important et qui pose en même temps beaucoup de questions, puisque oui, sans doute, il faut s'intéresser au sort des vaincus de la compétition scolaire, mais la compétition scolaire, elle s'accroît, vous le savez comme moi, il y a une concurrence très forte qui traverse le système éducatif et qui semble s'accroître. Hein. Et en plus, le risque, c'est un risque, hein, d'accord, ça serait une dérive aussi, ça serait ne plus se préoccuper du problème des inégalités, mais finalement de gérer les conséquences des inégalités, faire en sorte qu'on n'essaye plus tellement d'égaliser. On considère que c'est plus possible, en gros, j'exagère exprès pour vous montrer la problématique, mais de s'intéresser à ces enfants, en situation d'exclusion. Et puis, il y a peut-être un troisième âge des politiques dans lequel, qui serait plus récent, alors qui peut s'effectuer peut-être pas vraiment en France, ça se pose pas tellement dans ces termes-là en France, mais dans plusieurs pays, oui, ailleurs. En termes d'éducation inclusive, d'inclusive education, où qu'est-ce qu'on observe déjà, c'est une multiplication des politiques ciblées. Alors on en parlait ce matin, des ciblages des publics scolaires de plus en plus particuliers. Il y a des dispositifs scolaires ou des mesures pour les enfants migrants, pour les enfants réfugiés ou demandeurs d'asile, pour les enfants à risque d'exclusion. J'ai oublié un peu la liste, mais il y a une multiplication très grande, comme on le voit en Angleterre, par exemple, ou en République tchèque ou en Roumanie. C'est assez clair là-dessus. Et puis, surtout, dans ce nouvel âge des PEP, donc une multiplication, une fragmentation un peu de la... et des nouvelles notions qui sont mises en avant, nouvelles entre guillemets, mais notamment la notion de différence et de diversité, de besoins, comme les besoins spécifiques, vous savez, la notion de besoins spécifiques, qui sont très fortement mises en avant. Alors, je résume juste pour ici, je vais très vite sur l'évolution, mais vous voyez l'évolution dont je parle, c'est on passe un peu de la notion d'égalité à la notion de différence et diversité qui un grand panorama historique qui est assez présent. Et ça pose évidemment plusieurs problèmes. En plus, cette notion de diversité et de différence et de besoin aussi, ce sont des termes pas très clairs. Qu'est-ce que c'est que la différence, la diversité et les besoins qui les décident, les besoins des enfants, des élèves, ça va ensemble aussi avec une critique finalement. Vous savez, on est un peu dans ce qu'on appelle un modèle post-normatif, c'est-à-dire on critique le principe même d'une école commune qui serait forcément normalisante et on pourrait pas imaginer un système scolaire commun puisque un système scolaire commun normaliserait trop les différences et diversités que l'on respecterait pas assez. Alors, cette orientation globale, bien sûr, va avec des orientations européennes, mais même internationales, vous trouvez beaucoup de textes de l'OCDE, des choses comme ça, sur ces orientations-là, mais elles se greffent aussi à des visions de certains pays. Je vous donne un exemple, vous allez vite comprendre. Nous, on a travaillé avec l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, un peu, la République tchèque et la Roumanie. C'est clair que la République tchèque et la Roumanie n'ont pas le même rapport entièrement à l'égalité et à l'État que ce qu'on peut l'avoir en France, et on peut les comprendre, puisqu'ils ont quand même vécu sous un régime communiste, avec la notion même d'État et d'égalité n'est pas exactement perçue de la même manière, et l'égalité peut être vue comme une tentation d'égalitarisme. Et c'est vrai que dans ces pays, chez nos collègues tchèques, avec qui on a beaucoup travaillé, la notion de démocratisation qu'ils utilisent réfère plus finalement à la liberté des individus, à la reconnaissance de la diversité, que la notion de démocratisation telle qu'on peut l'utiliser en France, qui est une visée d'égalité. Donc il y a aussi cette dimension-là qui est en avant. Voilà. Donc j'arrête pour le cadre global, vraiment j'y vais très vite. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe en termes de curriculum, d'action pédagogique dans ces différents pays au sein de la dite éducation prioritaire? C'est vrai que c'est là où on a rencontré des actions sur la langue qui sont beaucoup argumentées dans bien des pays. Ou et notamment des prises en compte de la langue de scolarisation, d'origine des enfants. On trouve aussi bien des mesures qui visent le renforcement de la langue du pays d'accueil, on enseigne un peu plus, ou bien alors l'apprentissage de cette langue comme langue seconde, ou au même titre que le FLE, j'imagine, en France, mais aussi, on voit aussi donc des actions qui visent à... enseigner la langue d'origine, avoir certaines disciplines qui sont enseignées dans la langue d'origine des élèves. Origine, ça veut dire la langue des parents de ses enfants. On pourrait réfléchir aussi à la différence langagière entre les parents et les enfants. Et puis, faire tout l'enseignement dans la langue d'origine de ces enfants-là. Alors, vous voyez bien qu'il y a un rapport quand même entre la manière dont on pense la politique sous le terme de la diversité, un peu plus que sur celui de l'égalité, si on peut dire, et les types d'actions pédagogiques et curriculaires que l'on met en avant, où, alors, on le voit très clairement en Roumanie, en Suède, c'est extrêmement fort aussi, et en République tchèque, où cette option pédagogique de dire on va enseigner les langues d'origine ou faire l'enseignement des langues d'origine est un petit peu plus fort qu'ailleurs. Alors du coup, nous, on a récupéré des données sur ces pays, c'est très difficile, on a peu de données finalement, mais ce que l'on a observé simplement, et j'arrêterai là-dessus, mais c'est une tension dans ces débats-là, surtout dans les débats, une tension quand il y a ce type de dispositif de renforcement d'apprentissage dans la langue d'origine, on voit parfois une visée instrumentale. La visée instrumentale, c'est de dire, finalement, on fait un pari, une hypothèse, et je crois que c'est l'hypothèse qu'on fait depuis ce matin ici, on la tient, c'est de dire, le fait d'enseigner la langue d'origine va permettre de lutter contre les difficultés scolaires globales et en quoi la question que l'on se pose, c'est en quoi les modes d'adaptation, cet enseignement des langues d'origine va permettre de développer les compétences cognitives et intellectuelles des enfants ou des adolescents d'une manière générale. Et puis, on a aussi une autre argumentation, mais qui est toujours un peu là, c'est plutôt un enjeu de reconnaissance qui est mise en avant. Et c'est pas la même chose. Reconnaissance, c'est-à-dire, on va poser le problème en termes d'estime de soi, de fierté, de requalification d'une culture d'origine ou d'une culture familiale, et c'est pour cela qu'on effectue des enseignements dans la langue dite d'origine. Or, entre un enjeu de reconnaissance et un enjeu plus instrumental, on pense que c'est pas exactement la même chose. Et c'est vrai que cette tension, on la voit un peu partout, mais elle dépend fortement aussi des traditions de philosophie politique des différents pays. Par exemple, en Roumanie ou ailleurs, c'est vrai que la dimension de reconnaissance est très forte et très posée. Du coup, on voit le rapport entre ces deux types d'enjeux instrumentaux de reconnaissance n'est pas très simple à penser, et on voit des risques des deux côtés. Évidemment, d'un côté, il y a un risque d'uniformisation, d'arbitraire culturel et de non-prise en compte des formes de vie des individus ou des groupes. Alors, j'avais une petite anecdote dont je vous parlais ce matin, c'est-à-dire là, c'est sur la France. Il se trouve que j'enseignais à l'UFM il y a quelques années, et il y avait une stagiaire... prof d'espagnol, qui avait un capé d'espagnol qui était à l'UFM, qui avait fait un mémoire, donc moi je trouvais vraiment intéressant, où elle parlait un peu arabe, enfin elle parlait un arabe peut-être, faudrait-il dire, cette stagiaire, et ses élèves aussi, en éducation prioritaire, là pour le coup, et elle avait fait un mémoire, elle montrait comment, en passant par l'arabe, elle arrivait à... Il y avait des racines communes avec l'espagnol, si j'ai bien compris, c'est ce que vous rappeliez, et avec ses élèves, elle essayait de travailler sur des enjeux lexicaux, en passant par l'arabe. Et moi je trouvais ce mémoire très bon, c'était très intéressant. intéressant, elle essayait d'éviter plein de pièges. Bon, c'était et il se trouve qu'il y avait une évaluation et dans l'évaluation, la collègue qui l'évaluait avec moi, donc on était deux évaluateurs, c'était une prof d'espagnol et pour elle, c'était j'ai envie de le dire presque abominable, c'est-à-dire c'était impensable de faire ce type de travail en classe d'espagnol, de parler de se concentrer et de faire des séances en arabe en classe d'espagnol. Alors, je veux pas faire une caricature de cette affaire-là, mais enfin, il se trouve quand même que j'ai participé à beaucoup de jurys d'évaluation, il se trouve que là c'est la première fois que je voyais un tel écart d'évaluation sur un mémoire. Et il se trouve que ça concerne quand même le thème d'aujourd'hui, cet écart d'évaluation. Et de l'autre côté, donc un risque d'uniformisation et finalement d'invisibilisation des ressources cognitives, culturelles des élèves, hein, qui peuvent être des ressources d'apprentissage, et c'est bien ça l'enjeu. Et puis de l'autre côté, par contre, il y a un risque finalement de minoration des objectifs communs, en particulier de la langue, et non seulement de la langue spécifique d'un pays, mais j'ai envie de dire, et c'est là où je voudrais en venir, mais de la langue comme outil cognitif de pensée, et d'élaboration de soi et du monde. Parce que ce que l'on voit aussi, c'est que dans tous ces débats sur développons la scolarisation, l'apprentissage du plurilinguisme, la scolarisation des langues d'origine, au plus on parle de cette question-là, au moins on parle de littératie, par exemple, de rapport entre la culture écrite et la culture orale, et au moins on fait référence à la langue comme un outil non seulement de communication et d'expression, mais aussi un outil cognitif qui aide à penser, à réfléchir, à travailler. Donc il y a un petit peu problème. Or, pour les questions d'inégalité d'apprentissage, on sait bien que le rapport à la langue, on l'a rappelé tout à l'heure, est très important, et le risque d'une problématique dite de reconnaissance, revalorisation, requalification d'un côté ou d'apprentissage de l'autre, bon, il faut encore le penser et le construire. Je fais juste une petite parenthèse. Ça peut être un débat complexe parce que je vois l'année dernière, il y a un ouvrage d'Axel Honneth qui est paru sur les thématiques de la reconnaissance. Et lui pose dans les théories, dans la psychologie du développement, que la reconnaissance doit être première avant un apprentissage cognitif. Donc on peut réfléchir entre le rapport l'estime de soi et l'apprentissage cognitif. C'est compliqué, mais enfin, je crois qu'on a intérêt à aller dans cette chose-là. Je termine juste là-dessus. Il faut aussi penser avec les rapports sociaux globaux, les processus historiques. Je veux dire, exemple Suède, mais c'est ce que vous disiez aussi à l'instant, c'est-à-dire toutes les langues ne sont pas situées de la même manière dans les rapports sociaux historiques. Il y a le problème des migrations, le problème de la colonisation qui est en jeu, et choses comme ça. Donc je prends un dernier exemple, c'est en Suède, où cette question de l'apprentissage de la scolarisation dans les langues d'origine est très forte, comme mesure d'éducation prioritaire, j'ai envie de dire, hein, de manière très forte. Il y a un discours très général sur la pertinence et l'enjeu et le caractère tout à fait positif de l'apprentissage des langues d'origine. Or, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que ça touche surtout les minorités, alors je crois que c'est des minorités d'Afrique ou d'Europe de l'Est, mais il y a les minorités finnoises, par exemple, finlandaises, enfin qui parlent finnois ou anglais, ne sont absolument pas touchées par ces dispositifs-là. Et on voit bien quand même que ce ne sont pas les mêmes publics socialement, c'est-à-dire d'un côté des milieux très défavorisés, populaires ou des gens pauvres, pour le dire autrement, et de l'autre côté, ça peut être des élites économiquement, enfin du point de vue économique ou social, et donc là, le renforcement de la scolarisation en langue d'origine est plus porté pour des publics de milieux sociaux pauvres ou qui ont des rapports dont les migrations sont en rapport avec des enjeux de inégalitaires ou de domination avec le pays d'accueil que pour d'autres. Donc il faudrait là aussi clarifier un petit peu le débat là-dessus. Voilà, merci.
Grand merci, Monsieur Frangy. Voilà, ça fait justement un apport complémentaire par rapport à l'ensemble des pays, les contextes extrêmement complexes et toutes les questions auxquelles je pense que M. Coste, entre autres, répondra. Voilà. Donc, M. Coste, professeur émérite à l'École normale supérieure, membre associé du laboratoire ICAR, directeur de recherche à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, associé à l'équipe d'ILTEC. Il est depuis plusieurs années expert auprès du Conseil de l'Europe, division des politiques linguistiques. Il a participé aux travaux de l'élaboration du cadre européen commun de référence et plus récemment à la conception de la plateforme de ressources et de référence pour l'éducation plurilingue et interculturelle. Last but not least, nous confions à M. Daniel Coste la tâche de reprendre la parole pour réagir un peu sur le vif aux trois interventions que nous venons d'entendre.
Bon, je serai très bref et donc je vais décevoir profondément Diana, mais je crois que je soulagerai aussi les participants à cette journée en m'efforçant d'être rapide, d'autant plus que je sais que Marinette Mathé prend des notes fébriles et viendra... et viendra démolir toutes les belles constructions qu'on s'efforce de... Bon, je voudrais simplement faire quelques remarques rapides sur l'impression que j'ai qu'on marche sur un fil, globalement, ou qu'on marche sur des œufs. Et il faudrait éviter que ces œufs soient des publics à risque. Bon, c'est dit un petit peu brutalement, mais je crois que il y a dans nos enthousiasmes éventuels, hein, en ce qui concerne les constructions plurilingues, leurs vertus, leurs apports cognitifs, sociaux, politiques, etc., tout ce qu'on voudra, bon, quelque chose qui importe, et qu'à mon avis il faut maintenir, qu'il faut défendre, et qu'il faut argumenter, qu'il faut construire plus avant, mais en même temps il faut qu'on prennent un certain nombre de précautions, pas simplement, je dirais, scientifiques ou politiques, mais aussi déontologiques par rapport, disons, au public principalement concerné, si on pense au public scolaire. Alors, je voudrais illustrer ça par deux ou trois points qui sont apparus dans le débat, et je crois que c'était très riche, enfin, ces interventions successives, etc., dans la matière à discussion abondante tout à l'heure, donc je ne veux pas en rajouter ou revenir sur tel ou tel point en particulier. Alors, bon, le fait que les instruments qui sont mis sur le marché peuvent toujours donner lieu à double lecture et à des formes de récupération. Bon, c'est clair pour le cadre européen de référence, hein, Francis Gouliet l'a illustré. Bon, les instruments s'y prêtent parfois, hein, du fait de leur construction, mais en tout cas, même quand ils sont bien faits, à supposer que certains le soient vraiment, ça peut donner lieu à des formes d'usage qui vont, dans bien des cas, à l'encontre de ce qui avait été prévu. Bon. Il y a, dans toutes ces opérations aussi, je crois, des précautions à prendre, me semble-t-il, par rapport à ce qui a été appelé identité professionnelle, dans ce que disait Francis un petit peu tout à l'heure, à savoir que ce qu'on rencontre très très tôt, quand même, c'est... disons, dans des évolutions de ce genre, ou dans ce qu'on envisage comme étant des évolutions possibles, le fait qu'on a affaire à un certain nombre d'acteurs du domaine qui ont leur conviction, leur identité professionnelle, leur propre culture professionnelle, et qu'on ne peut pas aller à l'encontre de cela si on ne prend pas son temps, hein, si on n'essaie pas je ne dirais pas de négocier, mais en tout cas d'échanger véritablement et de convaincre peut-être, ou de se laisser convaincre dans l'autre sens, hein. Je crois qu'il ne faut pas non plus exclure cette hypothèse-là. L'autre point qui me paraît alors aussi problématique, c'est le fait que on a d'un côté, et ça vient d'être montré, je crois, par Daniel Frangi, quelque chose qui est du type une tendance quand même à surcatégoriser dans certains cas, je ne sais pas si ce terme conviendrait, mais enfin en tout cas à différencier des publics, à différencier des situations, à procéder à des ciblages, à des segmentations, etc., etc. Et que par ailleurs, on a en même temps une forme de pilotage ultime par l'évaluation. Et on a toute cette différenciation, et puis on a quand même PISA à un moment ou à un autre. Donc il y a ce jeu qui me paraît explicable à certains égards, mais en même temps extrêmement complexe et peut-être dangereux, d'un souci de différenciation qui aboutit peut-être dans certains cas à un éclatement, à une dispersion ou à une invisibilisation, comme vous le disiez, de certains vrais problèmes. Hein, dire que quand on finit par atomiser, différencier, etc., il y a peut-être des choses massives, comme des phénomènes de type inégalitaire, qui finissent par être amuis, si je peux dire, hein, qui finissent par plus ou moins être dissous, hein, dans ce genre d'opération. Alors qu'en fin de parcours, il y a de toute façon un certain nombre de juges de paix qui passe pour être utilement commun et utilement harmonisateur. Bon. Donc là aussi, je crois que c'est une interrogation, disons, de type déontologique, en tout cas pour moi. Alors, l'autre, je crois qu'elle est claire aussi, c'est est-ce que dans ce qu'on préconise, pour bon nombre d'entre nous, on travaille bon gré mal gré pour les nantis. Est-ce qu'on est sur des hypothèses, des convictions, des démarches, des expériences validées ou pas, etc., qui font qu'au bout du compte, on refait ce qui a été fait à propos des nouvelles technologies à un moment, on refait ce qui est fait encore à propos de l'immersion au Canada ou ailleurs, c'est-à-dire qu'on finit par, comme le montrait très très bien Hugo Battens-Birdmore, faire 1600 projets de recherche, tous validés, tous financés, etc., sur l'immersion au Canada, alors qu'on en a 4 ou 5 sur des publics beaucoup plus massifs et en plus grande difficulté. Bon. Donc il y a tout ça, je crois, aussi à l'arrière-plan en termes d'interrogation qui me semble tout de même assez fondamentale. En la circonstance, je crois que le fait qu'on s'intéresse quand même, justement, au public dit prioritaire, etc., éducation prioritaire, peut servir de garde-fou. Mais je constate qu'au long de cette journée, je ne veux pas anticiper sur tes commentaires, mais au long de cette journée, on a quand même beaucoup plus parlé de plurilinguisme que d'éducation prioritaire, de facto. C'est peut-être un signe à la composition, je ne sais pas. En tout cas, c'est nos dérives personnelles, peut-être. Ce qui me soucie aussi, peut-être, c'est l'exemple qu'a donné Francis tout à l'heure du fait que l'allemand se raccroche à l'anglais. C'est assez amusant et assez paradoxal. Enfin, c'est l'anglais devenant radeau de la Méduse pour d'autres langues. Mais ça donnerait l'impression que des expériences plurilingues de ce type sont en quelque sorte des solutions de pis-aller pour... Peut-être pas de pis-aller, enfin je suis méchant. Mais... En tout cas, des stratégies en cas de détresse, dans certains cas. Il y a eu des choses qui n'étaient pas fondamentalement différentes, à mon avis, dans des expériences qui ont été menées à Toulouse il y a quelques années, ou dans l'Académie de Toulouse, où on raccrochait le latin à une langue régionale, et puis à l'espagnol, etc. Bon, on essayait donc... Ou, dans un contexte plus massivement peut-être problématique, le fait qu'il y a des pédagogies dites convergentes qui ont été tentées, notamment au Brésil, parce que l'enseignement du portugais fichait le camp de partout, et qu'on essayait de le raccrocher, ou qu'on essaie de le raccrocher aujourd'hui à l'espagnol ou au français à un certain moment. Hein, bon, il y a des contextes de ce genre qui montrent que on est dans des situations où des recours, disons, au contact entre les langues, il y a des approches véritables de mise en lien, sont envisagées dans des situations qui apparaissent comme étant des situations de crise. Hein, bon. Je crois que je vais m'en tenir là. Il y aurait peut-être quand même à souligner le risque sur... Je ne sais pas, c'était un risque, enfin, moi, je l'ai pris comme un risque, qui était évoqué tout à l'heure, le fait que la multiplication des catégorisations des publics aboutit à une euphémisation des problèmes et aboutit aussi à un certain nombre de tensions, y compris dans des situations, disons, d'institutionnelles apparemment cohérentes. Je pense à ce qui se passe au Conseil de l'Europe, à l'intérieur même de la division des politiques linguistiques, dans les relations avec des pays qui demandent une expertise du Conseil pour une raison ou pour une autre. Alors il y a deux types d'expertise, ou deux types, disons, d'intervention. L'une qui est liée à la charte des langues régionales et minoritaires, et l'autre qui est lié plutôt à ce qu'on a appelé les profils de politique linguistique, à savoir comment est-ce que des pays sont intéressés par une intervention, disons, de type expertise internationale différenciée, à un moment où ils repensent leur politique des langues en général. Or, ce qu'on constate quand on lit les rapports de part et d'autre, c'est que pour un même pays, il peut y avoir des conclusions ou des incitations assez différentes, suivant qu'on prend la question sous l'angle des politiques langues régionales et minoritaires, ou suivant qu'on la prend sous l'angle des politiques linguistiques dans leur ensemble. Hein, du côté langue régionale et minoritaire, il y a peut-être une tendance dans bien des cas, quelque chose qui aurait un caractère de type cloisonnant, à la limite. Hein, par exemple, on défend l'idée que c'est peut-être pas bien d'introduire trop tôt une langue, disons, officielle du pays dans des écoles de minorités travaillant sur la langue minoritaire. Hein, bon. Alors que dans le rapport concernant les politiques linguistiques dans leur ensemble, on dit qu'il faudrait peut-être quand même s'interroger sur le fait que ces gosses-là, ils vont quand même devoir s'intégrer d'une manière ou d'une autre dans le pays, et professionnellement et universitairement, etc. Bon, simplement pointer là qu'on a, sur ces questions-là, et c'était simplement mon fil conducteur, si vous voulez, des opérations qui sont des opérations de type tension contradictoire, hein, et nécessité peut-être d'avancer très prudemment sur ces problématiques-là. Je suis désolé d'avoir une espèce d'insistance qui ne veut pas du tout être démotivante, mais je pense que ce n'est pas nous qui payons les pots cassés quand il y en a. Hein, donc il faut faire attention à qui les paie.
Merci beaucoup à Daniel Coste pour ses mises en garde. Et maintenant, j'ouvre le débat. La parole est à vous.
Je m'appelle Patrick Picard, je travaille au Centre Alain Savary, notamment sur le programme Professionnalité. Je connais bien l'éducation prioritaire, je connais bien les enseignants, surtout les débutants. Et je connais pas grand-chose des langues, si ce n'est des souvenirs de germanistes sur les circonvolutions entre le subjonctif 1 et 2, qui étaient parfois un peu compliqués pour moi. Je voudrais juste vous remercier pour à la fois la précision et l'engagement de vos propos. J'ai vraiment trouvé ce que vous avez dit très intéressant. Je voudrais juste vous faire part d'un témoignage. Je vais beaucoup filmer des enseignants de langue en éducation prioritaire. Je suis frappé de voir à quel point, premièrement, j'ai l'impression qu'ils font un métier à part, qui est finalement des fois un peu différent des autres métiers de prof. Alors on pourrait dire que les profs de PS font aussi un métier à part. Hein, mais... Je suis notamment frappé par, et vous l'avez dit à plusieurs occasions ce matin et cet après-midi, en rendant hommage aux difficultés que rencontrent les enseignants ordinaires pour gérer toute cette hétérogénéité linguistique, à la fois plurilingue et culturelle, hein, entre eux. Et je suis frappé de voir à quel point, dans leur ressenti, l'évolution du CECRL et de la perspective actionnelle en particulier, au-delà de ses raffinements et de sa pertinence didactique, leur pose des problèmes quotidiens qui me semblent extrêmement lourds. Je voudrais donc juste témoigner, donc je n'ai aucune compétence pour parler didactiquement de cette perspective actionnelle, je voudrais juste alerter l'attention de tous les spécialistes que vous êtes, sur les besoins d'accompagnement qui me semblent absolument extraordinaires de ces enseignants, faute de quoi ce que vous disiez sur les omelettes à prévoir et les œufs sur lesquels on marche me semble assez envisageable. Je rencontre beaucoup de jeunes enseignants extrêmement fiers de leur métier, engagés, etc. Et l'une d'elles me disait il n'y a pas longtemps... C'est un tel travail extraordinaire pour moi de fabriquer ce répertoire de situations actionnelles qu'il faut que j'invente, que j'espère que dans 10 ans, j'aurai un bagage dans ma musette suffisant pour ne pas y passer toutes mes nuits, mais parce qu'aujourd'hui, j'y passe vraiment toutes mes nuits. Et il me semble que pour un jeune enseignant en éducation prioritaire, et il y en a beaucoup, du coup, c'est une position un peu dangereuse pour eux, ça pourrait être les premiers œufs qu'on casse.
Je vous remercie pour ce témoignage. C'est extrêmement utile d'entendre ce genre de choses qu'on sent, mais il faut qu'on l'entende plus souvent. Je pense qu'en France, en particulier, il y a différentes positions par rapport au cadre. Position qui était très négative, c'est la pensée magique, auquel on a contribué. De dire, voilà le cadre, plus de problème, il suffit qu'à appliquer et tout va se régler, ce qui est faux. L'autre solution, c'est de dire qu'en fait... il faut trouver dans le cadre toutes les réponses techniques à l'enseignement des langues vivantes. Ce n'est pas là qu'on trouvera les réponses techniques. C'est dans la formation, dans les manuels, dans les matériaux pédagogiques. Je crois, c'est ce que je vais appuyer tout à l'heure, mais qu'il est important de répéter à ces jeunes enseignants et à tous les acteurs, le cadre est, à mon sens, non pas un document technique qui permet de mieux enseigner les langues, c'est un document de politique linguistique qui nous permet de créer une évolution, une dynamique, qui doit trouver ses formes, se concrétiser par des outils qui sortent de notre responsabilité, de l'institution. Et ce n'est pas en livrant le cadre et des slogans du cadre aux enseignants qu'on les aidera. Au contraire, je crois qu'on risque de focaliser leur mécontentement, leur frustration et de se révéler contre-productif. Et on voit bien, par exemple, sur les avatars du socle de connaissances et de compétences pour les langues, qui est une superbe idée en soi, mais d'avoir lancé ceci tel quel avec l'obligation de validation d'un niveau à un moment donné, sans véritablement accompagnement, sans aide à longtemps, est contre-productif, est un risque majeur par rapport à toutes ces idées que porte le cadre que nous voulions porter par ce cas. Donc vous avez raison, on est allé trop vite. On a pensé, collectivement, qu'il suffisait d'avoir ce cadre pour que tout se règle. C'est faux. Il faut qu'on le répète enseignant. C'est un document de politique linguistique qui n'apporte pas de réponse en soi, qui donne des éléments d'outils, mais ces éléments, ils doivent être concrétisés par rapport à un contexte particulier. C'est notre responsabilité collectivement, au niveau de la formation, des outils, à permettre à ces jeunes de comprendre ce qu'on entend par là, et surtout de bien dire aussi, si je termine par ça, que le cadre n'est pas un document sacré que l'on a été chercher sur le mont Saint-Odile, dont la parole serait intangible. On peut prendre beaucoup de liberté par rapport au cadre, et il faut surtout décomplexifier tous ces enseignants par rapport au cadre. C'est une aide, c'est une orientation politique. La mise en œuvre quotidienne, c'est pas dans cet outil qu'ils la trouveront, et c'est surtout pas en se culpabilisant par rapport à des enjeux qui sont extrêmement difficiles. Si j'avais un enseignement en plusieurs classes, j'aurais du mal à mettre en œuvre sans doute tout de suite toutes ces orientations à tous les moments. Je ne sais pas, Bruno, si tu...
Non, parfait.
Oui, merci. Oui, je me suis pas présenté tout à l'heure, donc j'essaie de le faire maintenant. Je m'appelle Jean-Pierre Chavagne et je suis au Centre de langue de Lyon 2 où je fais du portugais, de l'intercompréhension et du coréen que je ne parle pas. C'est pour ça que j'ai dit ça tout à l'heure. Et je voudrais répondre à Daniel Coste et aussi à Violaine Bigot qui m'a dit tout à l'heure que oui, ben, on n'est pas là pour changer l'éducation. Enfin, peut-être que je déforme. Et Daniel Coste qui nous dit allons-y doucement, surtout avec des publics que j'ai compris comme fragiles. Le problème, c'est que je crois qu'on prend trop de précautions avec la question du plurilinguisme et de son installation dans l'institution, pour laquelle pourtant il y a beaucoup d'arguments, beaucoup de recherches, beaucoup plus de recherches que de pratiques d'ailleurs, et parce que c'est non conventionnel. Mais penchons-nous sur le conventionnel et demandons-nous s'il n'y a pas plus de risques à le continuer. Est-ce que vraiment ça marche de tenter désespérément d'apprendre une seule langue et de ne pas y arriver? J'ai donné ma réponse. Ça ne marche pas. Globalement, il y a un pourcentage d'échecs tel que ça justifierait qu'on le supprime. Or, on continue parce que c'est conventionnel et que ça plaît à tout le monde. Or, qu'est-ce qu'on risque, encore une fois, à tenter de faire comprendre, par exemple, quatre langues au lieu d'en faire parler une? Je ne crois pas vraiment qu'il y ait un risque quelconque, au contraire. Et cette appétence qui va être créée va peut-être faire que l'élève va tout seul en apprendre une. C'est ce que je voulais signaler.
On enchaîne sur un autre commentaire.
Alors je vais prendre un peu le prolongement et reprendre ce que M. Goulier disait par rapport à l'anglais qui devient la roue de secours de l'allemand. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on est en train, et par rapport à l'intervention que vous avez eue tout à l'heure sur le fait qu'on va peut-être un peu trop vite, enfin, que vous allez peut-être un peu trop vite, parce que moi j'y suis pour rien. Est-ce que vous ne pensez pas que là, on est en train de faire de l'école primaire, qui est quand même assez absente là des débats, est-ce qu'on n'est pas en train de faire de l'école primaire le fossoyeur de toutes les autres langues, sauf de l'anglais? Avec, je rebondis sur l'intervention par rapport aux professeurs, puisque la certification va être supprimée, et on va se retrouver... Oui. Si. Je vous livre un scoop. À la rentrée prochaine, tous les enseignants de primaire sont tenus d'enseigner une langue, certification ou non. Habilitation ou non. Donc on va se retrouver face à des enseignants en détresse. Alors là, ce ne sera pas forcément les jeunes enseignants, ce sera les vieux enseignants qui sont complètement paniqués à l'idée d'enseigner une langue dont ils ne se sentent pas capables. Alors que, par exemple, des démarches comme l'éveil aux langues, on a quand même un matériel qui est préparée, qui est accessible et qui est relativement facilement utilisable avec un temps de formation relativement court. Et je rebondis, excusez-moi, je suis peut-être un peu long, je rebondis juste sur ce que disait monsieur. Là, je suis en train de faire une recherche où on pratique l'intercompréhension dans des classes de cycle 3 tout venant. Nous ne sommes pas en zone d'éducation prioritaire, mais nous avons des enfants en difficulté. Et effectivement, on se trouve, vous parliez de motivation, on a des enfants extrêmement motivés, notamment les enfants en difficulté. Je ne sais pas pourquoi, mais les enfants en difficulté sont les enfants qui participent le plus et de façon la plus pertinente. Et donc, on va avoir, à la fin de l'année, des enfants qui auront travaillé sur 4 ou 5 langues, qui n'ont plus aucun complexe à utiliser les langues, à passer d'une langue à l'autre, à faire des hypothèses. Ils travaillent sur le sens, ils travaillent sur la construction. Alors, effectivement, nous manquons encore d'outils pour avoir une approche et des acquis systématiques. Mais, justement, nous attendons des instances supérieures qu'elles nous donnent l'occasion de fabriquer et de tester les acquis et de créer du matériel.
Tiens,
je vais répondre très brièvement tout d'abord pour repréciser mon propos tout à l'heure. Bien sûr, l'anglais est langue vouée pour l'allemand. Ce que je veux dire, c'est qu'on utilise en allemand le besoin que ressentent tous les professeurs d'allemand pour avancer des pistes qui sont dans le sens d'éducation plurilingue. On dit, bon, donc ça marche parce qu'il y a ce besoin, ils recherchent quelque chose. Donc on a pu faire accepter, mais ça, c'est un autre débat. Maintenant, le problème que vous citiez de l'anglais à l'école primaire, et c'est un peu une réponse indirecte aux collègues, donc je comprends tout à fait ta raison, simplement, nous ne pourrons pas fonctionner en ignorant la demande sociale. Elle est là. On ne peut pas l'ignorer. Et on a beau lutter. Attendez, je vais finir. Hein. Je vais finir sur le primaire. On a beau lutter. Par exemple, je vois pour la diversification des langues. On sait bien qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, ça coûte très cher, simplement, elles ne résistent pas à cette demande sociale, ce fantasme. Alors, est-ce qu'il y a une insuffisance de l'information de l'opinion publique? Mais ça, ce n'est pas à l'école simplement de dire. L'école est là pour répondre aux besoins, c'est qu'il y a pas la société civile. Et le problème, c'est que dans cette société civile, il y a peu d'informations sur les besoins réels en langue et sur les possibilités, effectivement, d'utiliser différentes compétences en langue. Et puis, le tout dernier point sur l'école primaire, le problème, c'est que si vous avez un petit peu de... Regardez l'école primaire depuis 100 ans, les programmes de 2002 de l'école primaire disaient qu'il faut enseigner une langue, parce que c'était... Donc, on ne pouvait pas aller contre. Il y avait Bayrou qui avait introduit cette idée, et il y avait une demande, on ne pouvait plus aller contre. J'étais témoin au Prix Horloge des décisions qui ont été prises. Ça ne se discutait même pas. Il fallait qu'on aille vers un apprentissage. Mais on a, dans ces programmes de 2002, fait une partie au moins aussi longue qui laissait la porte à l'éducation plurilingue. Or, le problème de l'époque, plus maintenant, le problème de l'époque, c'est que, et là, je lance un peu, mais je sais que c'est pas, mais ça a été présenté, les tenants de l'approche réolangue, à l'époque, ont présenté ceci comme une alternative à l'apprentissage d'une langue. Ce qui a fait que, du côté du ministère, il y a eu porte fermée. Alors que si on avait, à cette époque, présenté ça comme complément à l'apprentissage d'une langue, je crois que, et je me souviens de réunions avec le directeur de cabinet, qui voyait là une chance possible, simplement, c'était un petit peu une erreur historique, elle n'est peut-être pas définitive, parce que tout était permis dans les programmes, en fait. On avait créé les programmes pour permettre cette approche complémentaire. Bon, simplement, la messe n'est pas dite. Bon, on est dans cette perspective, on ne pourra pas aller contre l'apprentissage d'une langue, parce que personne ne comprendrait, on ne serait pas suivi. Il faut tout simplement qu'on fasse comprendre que ce n'est pas, et c'est ce que disait Jean-François, puis ce n'est pas contradictoire avec cette volonté d'éducative, de profiter pendant ou à côté de l'apprentissage d'une langue et d'une culture, de cette éducation à la diversité, éducation plurilingue qui est tout à fait complémentaire. Je pense qu'il y a la place pour les deux. Simplement, il faut qu'on accepte, qu'on arrive maintenant à trouver les créneaux pour rentrer, mais...
Bien, je vais être un peu frustrante. Il va y avoir une dernière question. On prendra que 5 minutes de pause parce qu'on a aussi le retour de Marinette comme grand témoin de la journée. Il ne faudrait pas que la journée se défasse avec les horaires de train. Merci. Dernière question.
Lourde responsabilité, j'essaierai d'être rapide. Cazeneuve de Besançon. Retour 2 minutes sur le socle commun. Nous étions plusieurs à avoir imaginé sans doute avec beaucoup de naïveté, qu'on tenait là un levier et qu'on allait pouvoir faire reconnaître, notamment pour les enfants et adolescents qui avaient été scolarisés dans des systèmes éducatifs avec des langues de scolarisation massives. On s'était dit, par exemple, qu'un élève d'origine, un élève polonais, un élève chinois, un élève arabe, un élève turc allait pouvoir très tranquillement valider le A2 dans ces langues, plutôt que d'aller le chercher plus ou moins à la ramasse, en anglais, en allemand, en espagnol ou que sais-je. Et là, on s'est heurté à la traduction technocratique franco-française, c'est-à-dire que dans la mesure où le socle commun fait partie des préalables pour valider le DNB, il passe par la moulinette du service des examens et les DEC nous ont dit très tranquillement que non, qu'il était question de valider exclusivement les langues enseignées dans l'établissement. Donc là, j'aimerais bien avoir l'expertise de l'inspection générale là-dessus, parce que notre indignation et notre déception sont immenses.
Tous les deux vont répondre tous les deux. C'est absurde. Voilà. C'est absurde. D'autant plus qu'il s'agit de langues enseignées. En plus, le polonais est enseigné, l'arabe est enseigné, le turc est enseigné. Donc là, vous donnez des exemples. Oui, c'est ça. C'est absurde. Alors bien sûr, encore une fois, je parlais tout à l'heure des statuts différents des langues. Il s'agirait du mandingue. On pourrait se poser la question parce que nous n'avons pas les instruments. Mais là, vous parlez de langues enseignées dans le système éducatif français. Donc c'est absurde. Je ne vois pas. Je vois pas ce qui, réglementairement parlant, empêcherait d'eux. Voilà. Oui, il faudrait saisir pour le coup, là, alors la DGESCO, j'irai sur le plan réglementaire en disant. Non, mais vraiment, il faut la gestion. Donc, réglementairement parlant, qu'en est-il? Parce que il n'y a rien qui, réglementairement parlant, pour l'instant, l'interdise. Donc, c'est une position qui est. Bon, voilà.
Je pense que c'est possible si l'élève est inscrit dans cette langue. Si, par exemple, un élève veut apprendre une des langues enseignées, avec le CNED, par exemple. Je comprends tout à fait. Je trouve qu'effectivement, que c'est absurde. Simplement, juste peut-être, je ne suis pas là pour défendre la GESCO, qui n'a pas besoin de moi pour être défendu. La logique du socle, quand même, c'est quoi? C'est pas seulement de reconnaître que des enfants ont telle et telle compétence. La logique du socle de connaissances et de compétences, c'est d'engager l'institution dans une démarche d'accompagnement de l'élève depuis le début de sa scolarité jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire pour s'assurer que cet élève acquiert effectivement des compétences. Il y a un engagement du système éducatif par rapport à l'accompagnement de chacun des élèves. C'est livré de compétences et tout ça. Donc on peut comprendre, dans cette perspective, qu'il est important que les différentes composantes du SOC soient des disciplines enseignées où on puisse suivre, accompagner l'élève. C'est pas simplement reconnaître en cochant une case à la fin de la scolarité obligatoire, qu'il a ou pas telle compétence. C'est une attitude générale qu'on espère toujours, faire adopter par l'ensemble du système éducatif, de changement de regard par rapport à l'élève, de prise en compte de ses vraies responsabilités par rapport à la réussite des élèves. C'est un vrai changement copernicien qui est très loin d'avoir pris pied pour l'instant, pour des tas de raisons, d'où les problèmes de ce type d'élèves. Mais c'est pour, je ne veux pas légitimer, hein, c'est ridicule. Mais pour comprendre cette logique de dire, il faut que... Parce que sinon, il suffit de valider des choses qui ne sont pas enseignées dans l'établissement, et l'établissement peut se laver les mains de ses responsabilités par rapport au devenir des élèves. Niveau A2, pour un élève, théoriquement, si on l'accompagne depuis le début de sa scolarité, ça devrait être accessible dans une langue à enseigner au niveau de l'établissement. Bon, ce n'est pas contradictoire, hein, c'est... une logique par rapport à la prise en compte de la réalité des élèves. Simplement expliquer un petit peu le rôle que doit jouer ce socle dans la rénovation de l'enseignement scolaire en France.
Liana, je te laisse clôturer la table ronde.
Je remercie très chaleureusement nos quatre intervenants. Je vous remercie tous aussi pour ces échanges qui restent d'ailleurs très ouverts et qui sont à poursuivre.